Bonjour. On va prier. Nous voulons te remercier parce que tu es notre Père, Seigneur, et que ce matin encore, tu as des choses à nous dire, alors ouvre nos cœurs. Amen. On va continuer ce long serment de Jésus. Et aujourd'hui, c'est Matthieu 6. Alors, c'est Matthieu 6, les versets 1 à 18. Je vais vous les lire un peu dans le désordre. D'abord, on va lire les versets 1 à 6 et 16 à 18. Donc, Matthieu 6, et on commence au verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis on saute au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Dans cette partie du chapitre, il est question de notre justice. C'est le premier verset. Que veut dire Jésus par votre justice? Alors, j'ai regardé un peu, la Tob traduit par pratiquer votre religion. Parole de vie par ce que vous faites pour obéir à Dieu. Et la Bible en français courant par vos devoirs religieux. Et pratiquer sa justice, c'est le sujet général de ces quelques versets. Il ne suffit pas d'agir d'une manière juste, mais en plus, on doit le faire dans le secret. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons surtout en maîtriser la motivation, finalement. Le chapitre précédent mettait l'accent sur l'action d'aimer nos ennemis. Maintenant, ce passage dit que nos œuvres bonnes doivent être cachées aux yeux des hommes. Comme cela, on recevra une récompense, non de la part des hommes, mais de la part de notre Père, qui lui voit dans le secret. Et peut-être que l'enseignement que Jésus veut nous donner est là, c'est la récompense. Le Seigneur ne nous ordonne pas ici ni de faire l'aumône, ni de prier, ni de jeûner. Ce qu'il nous dit, c'est comment faire quand nous voulons prier, quand nous voulons faire l'aumône et quand nous voulons jeûner, afin de plaire à Dieu. Et là, Jésus vise trois actions bonnes. Mais c'est des exemples, ce n'est pas les seules bonnes actions qu'on peut faire. Je vous rappelle un verset de Jacques. Si quelqu'un sait comment faire le bien et qu'il ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Or, faire le bien, ici, Jésus le développe en trois points. Donc, l'aumône, la prière et le jeûne. Alors, d'abord l'aumône. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Sonnez la trompette. Je pense que c'est une expression imagée, non? De la même façon que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Ce que ça veut dire, c'est que nous devons éviter, autant qu'on peut le faire en tout cas, de faire l'aumône devant les hommes afin que ceux-ci nous remarquent. On doit le faire comme si notre main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Alors l'aumône, la parole de Dieu, est pleine d'enseignements au sujet de ce que nous devons faire vis-à-vis des pauvres, des faibles, des immigrés. Je vous citerai peut-être juste un texte d'Ésaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors là, déjà on voit l'action et la récompense. Est-ce que la recommandation de Jésus relève du secret ou de la discrétion? Doit-elle empêcher un chrétien de s'engager dans une œuvre caritative, une ONG, ceux qui aident les sinistrés, les réfugiés? Vous en pensez quoi? Moi, je crois pas, hein? Ce que nous dit Jésus par là, c'est que notre action, quelle qu'elle soit, ne doit pas avoir pour but d'être glorifié par les hommes. C'est toujours une histoire de motivation, finalement. Alors, en parlant de secret ou de discrétion, je vais quand même relever un verset de l'apôtre Pierre. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. On ne peut pas dire que ce soit vraiment la discrétion, hein. Mais on remarque quand même que le résultat attendu, c'est la gloire de Dieu, afin qu'il glorifie Dieu. La deuxième action dont Jésus nous parle, c'est la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout, dans les synagogues ou au coin des rues. Bon, ça se fait plus bien au coin des rues, hein. Pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, est-ce que la prière est réservée à la chambre, l'endroit intime par excellence? Paul dit à Timothée que les hommes doivent prier en tout lieu. Si elle était réservée à la chambre, la prière dans l'église devrait être proscrite. On voit que quand Pierre était en prison, les membres de l'église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Mais dans ce texte, Jésus nous met encore en garde sur notre motivation. Nous devons faire attention de ne pas faire de belles prières pour nous faire mousser. Souvenons-nous du pharisien de Luc. Le pharisien, celui qui priait debout. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Bien sûr, je suis meilleur. Le publicain, lui, se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus nous dit « Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Alors notre Seigneur, quand il était sur cette terre, on le voit souvent prier dans les lieux déserts. Bien sûr, il n'avait pas de quoi reposer sa tête, et pour lui, le désert, c'était un peu sa chambre à coucher, sa chambre intime. Et c'est là qu'il priait. Puis après, le jeûne. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Or le jeûne, toute une question. Qu'en est-il du jeûne dans le Nouveau Testament? On en voit la mention deux fois dans les Actes. On voit la première fois les leaders de l'église d'Antioche qui jeûnent et qui prient avant d'envoyer Paul et Barnabas en mission. Et puis on voit Paul et Barnabas qui jeûnent aussi avant de nommer des anciens dans les églises. Alors je pense que si dans l'Ancien Testament le jeûne était surtout une expression d'humiliation devant Dieu, dans le Nouveau Testament, les deux exemples que nous avons, c'est plutôt une recherche assidue de la volonté de Dieu, un temps mis à part pour l'écoute de Dieu. Et on ne va pas se lancer dans une étude à ce sujet. Toutefois, si nous jeûnons, nous devons faire de notre mieux pour que les gens ne le sache pas, ne s'en aperçoivent pas. Et c'est encore ici toute la question de notre but, de notre intention. Parlons maintenant de récompense. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'autres versions qui disent ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Pour cela, la première condition, ne pas être hypocrite. 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 Ça vient du grec faire semblant. L'hypocrite, c'est un comédien. Quelqu'un qui joue une scène, qui n'est pas lui-même. Quelqu'un qui cache ses sentiments, ses véritables motivations. On peut être hypocrite en aidant son prochain. Non pas seulement pour l'aider, mais aussi pour être vu et bien vu. On peut être hypocrite dans nos prières publiques pour être remarqué, voire admiré. On peut être hypocrite en jeûnant pour aussi être bien considéré. Peut-être comme beaucoup de musulmans le sont, pas tous, quand ils jeûnent au Ramadan. Ne cherchons pas à obtenir la louange de la part de ceux de l'intérieur comme de ceux de l'extérieur. Ne cherchons pas à être remarqués par les hommes, ni par nos frères et sœurs. Et pourtant, c'est une tendance naturelle de l'homme de bien se faire remarquer, admirer. Ça ne doit pas être la nôtre. On peut tirer de ce texte qu'il y a deux moments où on peut obtenir une récompense. Aujourd'hui, là, tout de suite, ou plus tard. Et ça correspond à deux types de récompenses. Celle qu'on peut avoir des hommes et la récompense de Dieu. Et Jésus nous dit qu'on ne peut pas cumuler. On ne peut pas avoir les deux types de récompenses. Si on veut obtenir celle des hommes, alors on ne peut pas obtenir celle de Dieu. On ne peut pas profiter d'une grande renommée dans ce monde et puis recevoir une position dans le royaume. Aujourd'hui, il existe des personnes zélées pour faire le bien. Et ils le font un peu au moins pour obtenir la louange des hommes. Et ça exclut la récompense de Dieu. C'est pourquoi on doit refuser, ou du moins ne pas rechercher la récompense actuelle, la récompense immédiate. Les gens du monde sont souvent prêts à être zélés et à souffrir afin de recevoir quelque chose tout de suite. Et si on ne fait pas attention, on peut avoir la même tendance. Que pouvons-nous gagner de la reconnaissance des hommes? Si nos yeux sont vraiment ouverts, alors nous chercherons uniquement la gloire devant la face de Dieu. Notre Père qui voit dans le secret. Tout le reste n'a pas d'importance. Il y a un verset qui m'a toujours surpris. C'est un verset des Proverbes. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu, le Créateur, devient le débiteur de celui qui a pitié du malheureux. Qui suis-je pour pouvoir prêter à celui à qui je dois tout? Et pourtant, il considère la chose comme cela. Dieu n'oublie même pas un verre d'eau donné à un petit. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Dieu considère toutes nos prières faites dans le secret comme de bonnes œuvres auxquelles il attache une récompense. Et le mot récompense, ce n'est pas forcément la réponse à la prière. La récompense parle d'une récompense à venir. Quelle sera là où les récompenses? Grande question. Paul dit, ne savez-vous que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et puis, il dit aussi, celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors la récompense, une couronne, une louange de la part de Dieu. Moi, je ne vais pas trancher. Alors continuons la lecture. Les versets 7 et 8. quelques conseils pour nos prières. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors déjà, on peut dire que ça suppose qu'on ne doit pas utiliser beaucoup de mots qui n'ont pas de sens pour rallonger les prières. Mais ça ne signifie pas non plus que nous ne devons jamais utiliser les mêmes mots dans nos prières. Souvenez-vous, quand notre Seigneur a été arrêté dans le jardin, il a prié 3 fois en utilisant les mêmes mots. Lorsqu'on a un réel fardeau dans notre esprit, on peut prier de nombreuses fois en utilisant les mêmes phrases. Ne multipliez pas de vaines paroles. Alors on peut penser que nos prières pour être exaucées doivent être longues. La majorité des prières citées dans la Bible sont courtes. Pierre, quand il marche sur le lac et qu'il s'enfonce, bon, il n'avait pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Seigneur, sauve-moi ! Néhémie, vous vous souvenez quand Néhémie était en conversation avec le roi Artaxerxès ? Il était à son service et il nous est dit qu'il a prié. Il pria le Dieu des cieux. Et vous pensez qu'il s'est arrêté dans son service pour ça? Je crois que ça n'aurait pas été bien vu. Donc quand on a un besoin urgent, on peut prier courtement. Quand on a le temps, on peut se permettre de prier longuement, en privé. Mais on ne doit pas penser que c'est la multitude de paroles qui nous fait écouter par Dieu. L'Ecclésiaste nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Et puis Jésus nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Bien sûr, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Est-ce pour cela qu'on n'a pas besoin de le prier? Je pense que ce verset nous dit que on ne doit pas venir vers Dieu dans le simple but de lui exprimer l'état des lieux. L'état des lieux, il le connaît. Dieu connaît nos besoins, il attend simplement que nous lui demandions quelque chose. Il n'attend pas de nous une information complète sur la situation. Les disciples, pendant la tempête, c'est un peu ce qu'ils ont fait. « Maître, nous périssons. » Ben oui, ils le savaient, ça. Il attend plutôt de nous la prière de Pierre. « Sauve-nous. » Je crois que ces versets nous découragent de transformer nos prières en bulletins d'information. Alors à propos de la prière, peut-être pour sourire et puis peut-être parce que Elsa vient de naître, je vous rappelle une prière d'enfant. Un gamin qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « Dieu, est-ce que tu peux envoyer un nouveau bébé pour maman ? Celui que tu as envoyé la semaine passée, il pleure tout le temps. » Il a exprimé ce qu'il voulait. Bon. Alors, poursuivons nos lectures. La lecture du Notre Père, cette prière que vous connaissez tous. On va la lire quand même. Les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici comment vous devez prier. Est-ce que ça signifie que cette prière doit être utilisée comme une formule ? Non. Les disciples et nous, on doit seulement la prendre comme un exemple de prière et apprendre à prier de la même façon. Pendant que le Seigneur était sur la terre, il n'a appris à ses disciples à prier qu'en deux occasions. Celle-là, puis l'autre, elle nous est rapportée dans Luc. Luc 11. Et dans Luc 11, c'est les disciples qui ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et c'est la même prière. Alors vous remarquez que c'est une prière qui est courte. Quatre petits versets, quatre courtes phrases. On ne va pas étudier cette prière ce matin. Et on passera tout de suite aux versets 14 et 15. Mais vous remarquerez quand même que dans cette prière, les besoins ne tiennent qu'une phrase. Donne-nous notre pain de ce jour. En versets 14 et 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Aux offenses. Ça rappelle les versets de la prière, pardonne-nous nos offenses, ou selon Darby, remets-nous nos dettes. Si quelqu'un nous offense et que nous refusions de pardonner, nous nous privons du pardon de Dieu. Alors il ne s'agit pas ici du pardon pour l'éternité de celui qui nous sauve. Cette question est déjà réglée. Fondamentalement, le problème de l'homme, c'est sa rébellion contre Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il n'a plus de relation avec Dieu. Il est condamné à mort. Et un de nos besoins les plus fondamentaux, c'est d'être pardonné par Dieu pour que la relation puisse se rétablir. Et un chrétien, c'est quelqu'un à qui Dieu a pardonné ses péchés. Quand il a confessé sa rébellion, son péché, qu'il croit en Jésus comme sauveur, il est sauvé, il est pardonné. Et aux yeux de Dieu, celui qui voit dans le secret, il est juste. Mais malheureusement, le chrétien ne fait pas toujours ce qui est juste. Et je pense que j'en sais quelque chose, et je pense que vous aussi. Le chrétien pêche encore, et il a besoin d'être pardonné par Dieu. Et Dieu, notre Père, est prêt à nous pardonner. Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas seulement aux heures de bureau. Il y a un lien étroit entre le pardon que nous voulons recevoir de Dieu et le pardon que nous offrons aux autres. Ceci ne touche pas notre salut, mais cela influe sur notre relation avec l'autre et avec Dieu. Le pardon est un vaste sujet à lui tout seul, mais ça mériterait une longue étude. Et on ne la fera pas ce matin, mais on peut penser au moins que Jésus considère le pardon que nous offrons comme quelque chose de très important. Si nous refusons de pardonner, Dieu refusera de nous pardonner. Et alors, on va se trouver sous, quelque part sous sa loi, jusqu'à ce qu'on se rende compte de la stupidité de notre attitude, de son caractère coupable. Comment peut-on garder un esprit rancunier contre quelqu'un quand Dieu nous a tant pardonné? Or, pardonner, c'est difficile. Et je ne prétends pas le contraire. Est-ce que Jésus demande trop? Jésus, lui, sait ce que coûte le pardon. Et quand on pardonne, on imite le Père qui nous a tout pardonné. Et c'est à cela que nous devons tendre. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Pardonner aux autres n'est pas chose facile. Juste que c'est nécessaire. Ce n'est pas simplement une option de notre vie chrétienne. Alors qu'en pardonner nous semble impossible, peut-être devrions-nous simplement commencer en demandant à Dieu qu'il nous donne le désir de pardonner. Il voit dans le secret, il voit l'intention de notre cœur, et je suis sûr qu'il nous exaucera. Amen.